La Chartreuse de Parme, livre 1, chapitre 13. Toutes les idées sérieuses furent oubliées à l'apparition imprévue de cette aimable personne. Fabrice se mit à vivre à Bologne dans une joie et une sécurité profondes. Cette disposition naïve à se trouver heureux de tout ce qui remplissait sa vie, perçait dans les lettres qu'il adressait à la duchesse. Ce fut au point qu'elle en prit de l'humeur. À peine si Fabrice le remarqua. Seulement, il écrivit en lignes abrégées sur le cadran de sa montre. « Quand j'écris à la D, ne jamais dire « quand j'étais prélat, quand j'étais homme d'église, cela la fâche. » Il avait acheté deux petits chevaux dont il était fort content. Il les attelait à une calèche de louage toutes les fois que la petite Marietta voulait aller voir quelqu'un de ces sites ravissants des environs de Bologne. Presque tous les soirs, il la conduisait à la chute du Reno. Au retour, il s'arrêtait chez l'aimable Crescentini, qui se croyait un peu le père de la Marietta. Ma foi, si c'est là l'avis de café qui me semblait si ridicule pour un homme de quelque valeur, j'ai eu tort de la repousser, se disait Fabrice. Il oubliait qu'il n'allait jamais au café que pour lire le Constitutionnel, et que, parfaitement inconnu à tout le beau monde de Bologne, les jouissances de vanité n'entraient pour rien dans sa félicité présente. Quand il n'était pas avec la petite Marietta, on le voyait à l'observatoire, où il suivait un cours d'astronomie. Le professeur l'avait pris en grande amitié, et Fabrice lui prêtait ses chevaux le dimanche pour aller briller avec sa femme au Corso de la Montagnola. Il avait en exécration de faire le malheur d'un être quelconque, si peu aimable qu'il fût. La Marietta ne voulait pas absolument qu'il vît la vieille femme, mais un jour qu'elle était à l'église, il monta chez la Mamma Cia, qui rougit de colère en le voyant entrer. « C'est le cas de faire le Del Dongo, » se dit Fabrice. « Combien la Marietta gagne-t-elle par mois quand elle est engagée ? » s'écria-t-il de l'air dont un jeune homme qui se respecte entre à Paris au balcon des bouffes. « 50 écus. »« Vous mentez, comme toujours. Dites la vérité, ou par Dieu, vous n'aurez pas un centime. » « Eh bien, elle gagnait 22 écus dans notre compagnie à Parme, quand nous avons eu le malheur de vous connaître. Moi, je gagnais 12 écus, » et nous donnions à Giletti, notre protecteur, chacune le tiers de ce qui nous revenait. Sur quoi, tous les mois à peu près, Giletti faisait un cadeau à la Marietta. Ce cadeau pouvait bien valoir 2 écus. Vous mentez encore. Vous ne receviez que 4 écus. Mais si vous êtes bonne avec la Marietta, je vous engage comme si j'étais un impresario. Tous les mois, vous recevrez 12 écus pour vous et 22 pour elle. Mais si je lui vois les yeux rouges, je fais banqueroute. Vous faites le fier. Eh bien, votre belle générosité nous ruine, répondit la vieille femme d'un ton furieux. Nous perdons l'aviamento, lâcha l'andage. Quand nous aurons l'énorme malheur d'être privés de la protection de votre excellence, nous ne serons plus connus d'aucune troupe. Toutes seront au grand complet, nous ne trouverons pas d'engagement, et par vous, nous mourrons de faim. « Va-t'en au diable !» dit Fabrice en s'en allant. « Je n'irai pas au diable, vilain impie, mais tout simplement au bureau de la police, qui saura 2 mois que vous êtes un Monsignor qui a jeté le froc aux orties et que vous ne vous appelez pas plus Joseph Bossi que moi. » Fabrice avait déjà descendu quelques marches d'escalier. Il revint. « D'abord, la police sait mieux que toi quel peut être mon vrai nom. Mais si tu t'avises de me dénoncer... « Si tu as cette infamie, lui dit-il d'un grand sérieux, Ludovic te parlera, et ce n'est pas 6 coups de couteau que recevra ta vieille carcasse, mais 2 douzaines, et tu seras pour 6 mois à l'hôpital, et sans tabac. » La vieille femme pâlit et se précipita sur la main de Fabrice qu'elle voulut baiser. « J'accepte avec reconnaissance le sort que vous nous faites à la Marietta et à moi. Vous avez l'air si bon que je vous prenais pour un niais. Et pensez-y bien, d'autres que moi pourront commettre la même erreur. Je vous conseille d'avoir habituellement l'air plus grand seigneur. » Puis elle ajouta avec une impudence admirable, « Vous réfléchirez à ce bon conseil, et comme l'hiver n'est pas bien éloigné, vous nous ferez cadeau à la Marietta et à moi de deux bons habits de cette belle étoffe anglaise que vend le gros marchand qui est sur la place Saint-Pétrone. » L'amour de la jolie Marietta offrait à Fabrice tous les charmes de l'amitié la plus douce, ce qui le faisait songer au bonheur du même genre qu'il aurait pu trouver auprès de la duchesse. Mais n'est-ce pas une chose bien plaisante, se disait-il quelquefois, que je ne sois pas susceptible de cette préoccupation exclusive et passionnée qu'ils appellent de l'amour. Parmi les liaisons que le hasard m'a données à Novare ou à Naples, ai-je jamais rencontré des femmes dont la présence, même dans les premiers jours, fut pour moi préférable à une promenade sur un joli cheval inconnu? Ce qu'on appelle amour, ajoutait-il, serait-ce donc encore un mensonge? J'aime sans doute, comme j'ai bon appétit à 6 heures. Serait-ce cette propension quelque peu vulgaire dont ses menteurs auraient fait l'amour d'Othello, l'amour de Tancrède? Ou bien faut-il croire que je suis organisée autrement que les autres hommes? Mon âme manquerait d'une passion? Pourquoi cela? Ce serait une singulière destinée. À Naples, surtout dans les derniers temps, Fabrice avait rencontré des femmes qui, fières de leur rang, de leur beauté et de la position qu'occupaient dans le monde les adorateurs qu'elle lui avait sacrifiés, avaient prétendu le mener. À la vue de ce projet, Fabrice avait rompu de la façon la plus scandaleuse et la plus rapide. Or, se disait-il, si je me laisse jamais transporter par le plaisir, sans doute très vif, d'être bien avec cette jolie femme qu'on appelle la duchesse Sanseverina, je suis exactement comme ce Français étourdi qui tua un jour la poule aux œufs d'or. C'est à la duchesse que je dois le seul bonheur que j'ai jamais éprouvé par les sentiments tendres. Mon amitié pour elle est ma vie. Et d'ailleurs, sans elle, que suis-je? Un pauvre exilé, réduit à vivoter péniblement dans un château délabré des environs de Novare. Je me souviens que durant les grandes pluies d'automne, j'étais obligée, le soir, crainte d'accident, d'ajuster un parapluie sur le ciel de mon lit. Je montais les chevaux de l'homme d'affaires, qui voulait bien le souffrir par respect pour mon sang-bleu, pour ma haute naissance. Mais il commençait à trouver mon séjour un peu long. Mon père m'avait assigné une pension de 1200 francs et se croyait damné de donner du pain à un jacobin. Ma pauvre mère et mes sœurs se laissaient manquer de robes pour me mettre en état de faire quelques petits cadeaux à mes maîtresses. Cette façon d'être généreux me perçait le cœur. Et de plus, on commençait à soupçonner ma misère. Et la jeune noblesse des environs allait me prendre en pitié. Tôt ou tard, quelque fat eût laissé voir son mépris pour un jacobin pauvre et malheureux dans ses desseins. Car aux yeux de ces gens-là, je n'étais pas autre chose. J'aurais donné ou reçu quelque bon coup d'épée qui m'eût conduit à la forteresse de Fenestrel. Ou bien, j'eusse de nouveau été me réfugier en Suisse, toujours avec 1200 francs de pension. J'ai le bonheur de devoir à la duchesse l'absence de tous ces maux. De plus, c'est elle qui sent pour moi les transports d'amitié que je devrais éprouver pour elle. Au lieu de cette vie ridicule et piètre qui eût fait de moi un animal triste, un sot, depuis 4 ans je vis dans une grande ville et j'ai une excellente voiture, ce qui m'a empêché de connaître l'envie et tous les sentiments bas de la province. Cette tante trop aimable me gronde toujours de ce que je ne prends pas assez d'argent chez le banquier. Veux-je gâter à jamais cette admirable position? Veux-je perdre l'unique ami que j'ai au monde? Il suffit de proférer un mensonge, il suffit de dire à une femme charmante et peut-être unique au monde et pour laquelle j'ai l'amitié la plus passionnée, « Je t'aime, moi qui ne sais pas ce que c'est qu'aimer l'amour. » Elle passerait la journée à me faire un crime de l'absence de ces transports qui me sont inconnus. La Marietta, au contraire, qui ne voit pas dans mon cœur et qui prend une caresse pour un transport de l'âme, me croit fou d'amour et s'estime la plus heureuse des femmes. Dans le fait, je n'ai connu un peu de cette préoccupation tendre qu'on appelle, je crois, l'amour, que pour cette jeune Annikaine de l'auberge de Zonder, près de la frontière de Belgique. C'est avec regret que nous allons placer ici l'une des plus mauvaises actions de Fabrice. Au milieu de cette vie tranquille, une misérable pique de vanité s'empara de ce cœur rebelle à l'amour et le conduisit fort loin. En même temps que lui, se trouvait à Bologne la fameuse Fausta F., sans contredit l'une des premières chanteuses de notre époque, et peut-être la femme la plus capricieuse que l'on ait jamais vue. L'excellent poète Buratti, de Venise, avait fait sur son compte ce fameux sonnet satirique qui alors se trouvait dans la bouche des princes comme des derniers gamins de carrefour. Vouloir et ne pas vouloir, adorer et détester en un jour, n'être contente que dans l'inconstance, mépriser ce que le monde adore, tandis que le monde l'adore, la Fausta a ses défauts et bien d'autres encore. Donc, ne vois jamais ce serpent. Si tu la vois, imprudent, tu oublies ses caprices. As-tu le bonheur de l'entendre, tu t'oublies toi-même, et l'amour fait de toi, en un moment, ce que Circé fit jadis des compagnons d'Ulysse. Pour le moment, ce miracle de beauté était sous le charme des énormes favoris et de la haute insolence du jeune comte M, au point de n'être pas révolté de son abominable jalousie. Fabrice vit ce comte dans les rues de Bologne et fut choqué de l'air de supériorité avec lequel il occupait le pavé et daignait montrer ses grâces au public. Ce jeune homme était fort riche, se croyait tout permis. Et comme ses prépotenze lui avaient attiré des menaces, il ne se montrait guère qu'environné de 8 ou 10 bulli, sorte de coupe-jarret, revêtu de sa livrée, et qu'il avait fait venir de ses terres dans les environs de Brescia. Les regards de Fabrice avaient rencontré 1 ou 2 fois ceux de ce terrible comte, lorsque le hasard lui fit entendre la Fausta. Il fut étonné de l'angélique douceur de cette voix. Il ne se figurait rien de pareil. Il lui dut des sensations de bonheur suprême, qui faisaient un beau contraste avec la placidité de sa vie présente. « Serait-ce enfin là de l'amour ?» se dit-il. Fort curieux d'éprouver ce sentiment, et d'ailleurs amusé par l'action de braver ce comte M, dont la mine était plus terrible que celle d'aucun tambour-major, notre héros se livra à l'enfantillage de passer beaucoup trop souvent devant le palais Tanari, que le comte M avait loué pour la Fausta. Un jour, vers la tombée de la nuit, Fabrice, cherchant à se faire apercevoir de la Fausta, fut salué par des éclats de rire fort marqués lancés par les boulis du comte, qui se trouvait sur la porte du palais Tanari. Il courut chez lui, prit de bonnes armes et repassa devant ce palais. La Fausta, cachée derrière ses persiennes, attendait ce retour et lui en tint compte. M, jaloux de toute la terre, devint spécialement jaloux de M. Joseph Bossi et s'emporta en propos ridicules. Sur quoi tous les matins, notre héros lui faisait parvenir une lettre qui ne contenait que ces mots. Monsieur Joseph Bossi détruit les insectes incommodes. Éloge au Pellegrino via Larga, numéro 79. Le comte M, accoutumé au respect que lui assurait en tout lieu son énorme fortune, son sang bleu et la bravoure de ses 30 domestiques, ne voulut point entendre le langage de ce petit billet. Fabrice en écrivit d'autres à la Fausta. M mit des espions autour de ce rival. qui peut-être ne déplaisait pas. D'abord, il apprit son véritable nom, et ensuite que pour le moment, il ne pouvait se montrer à Parme. Peu de jours après, le comte M, ses boules, ses magnifiques chevaux et la Fausta partirent pour Parme. Fabrice, piqué au jeu, les suivit le lendemain. Ce fut en vain que le bon Ludovic fit des remontrances pathétiques. Fabrice l'envoya promener, et Ludovic, fort brave lui-même, l'admira. D'ailleurs, ce voyage le rapprochait de la jolie maîtresse qu'il avait à Casal Maggiore. Par les soins de Ludovic, 8 ou 10 anciens soldats des régiments de Napoléon entrèrent chez M. Joseph Bossi, sous le nom de domestique. Pourvu, se dit Fabrice en faisant la folie de suivre la Fausta, que je n'ai aucune communication ni avec le ministre de la police, comte Mosca, ni avec la duchesse. Je n'expose que moi. Je dirai plus tard à ma tante que j'allais à la recherche de l'amour, cette belle chose que je n'ai jamais rencontrée. Le fait est que je pense à la Fausta, même quand je ne la vois pas. Mais est-ce le souvenir de sa voix que j'aime ou sa personne? Ne songeant plus à la carrière ecclésiastique, Fabrice avait arboré des moustaches et des favoris, presque aussi terribles que ceux du comte M, ce qui le déguisait un peu. Il établit son quartier général, non à Parme, c'eût été trop imprudent, mais dans un village des environs, au milieu des bois, sur la route de Sacca, où était le château de sa tante. D'après les conseils de Ludovic, il s'annonça dans ce village comme le valet de chambre d'un grand seigneur anglais, fort original, qui dépensait 100 000 francs par an pour se donner le plaisir de la chasse, et qui arriverait sous peu du lac de Côme, où il était retenu par la pêche détruite. Par bonheur, le joli petit palais que le comte M avait loué pour la belle Fausta était situé à l'extrémité méridionale de la ville de Parme, précisément sur la route de Sacca, et les fenêtres de la Fausta donnaient sur les belles allées de grands arbres qui s'étendent sous la haute tour de la citadelle. Fabrice n'était point connu dans ce quartier désert. Il ne manqua pas de faire suivre le comte M. Et un jour que celui-ci venait de sortir de chez l'admirable cantatrice, il eut l'audace de paraître dans la rue en plein jour. À la vérité, il était monté sur un excellent cheval et bien armé. Des musiciens, de ceux qui courent les rues en Italie et qui parfois sont excellents, vinrent planter leurs contrebasses sous les fenêtres de la Fausta. Après avoir préludé, ils chantèrent assez bien une cantate en son honneur. La Fausta se mit à la fenêtre et remarqua facilement un jeune homme fort poli qui, arrêté à cheval au milieu de la rue, la salua d'abord, puis se mit à lui adresser des regards fort peu équivoques. Malgré le costume anglais exagéré adopté par Fabrice, elle eut bientôt reconnu l'auteur des lettres passionnées qui avait amené son départ de Bologne. « Voilà un être singulier, se dit-elle. Il me semble que je vais l'aimer. J'ai 100 louis devant moi, je puis fort bien planter là ce terrible comte M. Au fait, il manque d'esprit et d'imprévu, et n'est un peu amusant que par la mine atroce de ses gens. » Le lendemain, Fabrice ayant appris que tous les jours, vers les 11 heures, la Fausta allait entendre la messe au centre de la ville, dans cette même église de Saint-Jean, où se trouvait le tombeau de son grand-oncle, l'archevêque Ascanio del Dongo, il osa l'y suivre. À la vérité, Ludovic lui avait procuré une belle perruque anglaise avec des cheveux du plus beau rouge. À propos de la couleur de ses cheveux, qui était celle des flammes qui brûlaient son cœur, il fit un sonnet que la Fausta trouva charmant. Une main inconnue avait eu soin de le placer sur son piano. Cette petite guerre dura bien 8 jours. Mais Fabrice trouvait que malgré ses démarches de tout genre, il ne faisait pas de progrès réel. la Fausta refusait de le recevoir. Il outrait la nuance de singularité. Elle a dit depuis qu'elle avait peur de lui. Fabrice n'était plus retenu que par un reste d'espoir d'arriver à sentir ce qu'on appelle de l'amour. Mais souvent il s'ennuyait. « Monsieur, allons-nous-en, » lui répétait Ludovic. « Vous n'êtes point amoureux. Je vous vois un sang-froid et un bon sens désespérant. D'ailleurs, vous n'avancez point. Par pure vergogne, décampons. » Fabrice allait partir au premier moment d'humeur lorsqu'il apprit que la Fausta devait chanter chez la duchesse Sanseverina. Peut-être que cette voix sublime achèvera d'enflammer mon cœur, se dit-il. Et il osa bien s'introduire déguisé dans ce palais où tous les yeux le connaissaient. Qu'on juge de l'émotion de la duchesse, lorsque tout à fait vers la fin du concert, elle remarqua un homme en livrée de chasseur, debout près de la porte du grand salon. Cette tournure rappelait quelqu'un. Elle chercha le comte Mosca, qui seulement alors lui apprit l'insigne et vraiment incroyable folie de Fabrice. Il l'apprenait très bien. Cet amour pour une autre que la duchesse lui plaisait fort. Le comte, parfaitement galant homme, hors de la politique, agissait d'après cette maxime qu'il ne pouvait trouver le bonheur qu'autant que la duchesse serait heureuse. « Je le sauverai de lui-même, » dit-il à son ami. « Jugez de la joie de nos ennemis si on l'arrêtait dans ce palais. Aussi ai-je ici plus de 100 hommes à moi, et c'est pour cela que je vous ai fait demander les clés du grand château d'eau. Il se porte pour amoureux fou de la Fausta, et jusqu'ici ne peut l'enlever au comte M, qui donne à cette folle une existence de reine. » La physionomie de la duchesse trahit la plus vive douleur. Fabrice n'était donc qu'un libertin, tout à fait incapable d'un sentiment tendre et sérieux. Et ne pas nous voir, c'est ce que jamais je ne pourrais lui pardonner, dit-elle enfin. Et moi qui lui écris tous les jours à Bologne. J'estime fort sa retenue, répliqua le comte. Il ne veut pas nous compromettre par son équipée, et il sera plaisant de la lui entendre raconter. La Fausta était trop folle pour savoir taire ce qui l'occupait. Le lendemain du concert, dont ses yeux avaient adressé tous les airs à ce grand jeune homme habillé en chasseur, elle parla au comte M d'un attentif inconnu. « Où le voyez-vous ? » dit le comte furieux. « Dans les rues, à l'église, » répondit la Fausta interdite. Aussitôt, elle voulut réparer son imprudence, ou du moins éloigner tout ce qui pouvait rappeler Fabrice. Elle se jeta dans une description infinie d'un grand jeune homme à cheveux rouges. Il avait des yeux bleus. Sans doute c'était quelque Anglais fort riche et fort gauche, ou quelque prince. À ce mot, le comte M, qui ne brillait pas par la justesse des aperçus, alla se figurer, chose délicieuse pour sa vanité, que ce rival n'était autre que le prince héréditaire de Parme. Ce pauvre jeune homme mélancolique, gardé par 5 ou 6 gouverneurs, sous-gouverneurs, précepteurs, etc., etc., qui ne le laissait sortir qu'après avoir tenu conseil, lançait d'étranges regards sur toutes les femmes passables qu'il lui était permis d'approcher. Au concert de la duchesse, son rang l'avait placé en avant de tous les auditeurs, sur un fauteuil isolé, à 3 pas de la belle Fausta. Et ses regards avaient souverainement choqué le comte M. Cette folie d'exquise vanité, avoir un prince pour rival, amusa fort la Fausta, qui se fit un plaisir de la confirmer par 100 détails naïvement donnés. « Votre race, disait-elle au comte, est aussi ancienne que celle des Farnèses à laquelle appartient ce jeune homme ?»« Que voulez-vous dire, aussi ancienne ? Moi, je n'ai point de bâtardise dans ma famille. » Le hasard voulut que jamais le comte M ne put voir à son aise ce rival prétendu, ce qui le confirma dans l'idée flatteuse d'avoir un prince pour antagoniste. En effet, quand les intérêts de son entreprise n'appelaient point Fabrice à Parme, il se tenait dans les bois, vers Sacca et les bords du Pô. Le comte M était bien plus fier, mais aussi plus prudent depuis qu'il se croyait en passe de disputer le cœur de la Fausta à un prince. Il la pria fort sérieusement de mettre la plus grande retenue dans toutes ses démarches. Après s'être jeté à ses genoux en amant jaloux et passionné, il lui déclara fort net que son honneur était intéressé à ce qu'elle ne fût pas la dupe du jeune prince. « Permettez, je ne serai pas sa dupe si je l'aimais. Moi, je n'ai jamais vu de prince à mes pieds. » « Si vous cédez, reprit-il avec un regard hautain, peut-être ne pourrais-je pas me venger du prince. Mais certes, je me vengerai. » Et il sortit en fermant les portes à tour de bras. Si Fabrice se fût présenté en ce moment, il gagnait son procès. « Si vous tenez à la vie, lui dit-il le soir, en prenant congé d'elle après le spectacle, faites que je ne sache jamais que le jeune prince a pénétré dans votre maison. Je ne puis rien sur lui, morbleu, mais ne me faites pas souvenir que je puis tout sur vous. » « Ah, mon petit Fabrice, s'écria la Fausta, si je savais où te prendre. » La vanité piquée peut mener loin un jeune homme riche, et dès le berceau toujours environné de flatteurs. La passion très véritable que le comte M avait eue pour la Fausta se réveilla avec fureur. Il ne fut point arrêté par la perspective dangereuse de lutter avec le fils unique du souverain chez lequel il se trouvait. De même qu'il n'eut point l'esprit de chercher à voir ce prince, ou du moins le faire suivre. Ne pouvant autrement l'attaquer, M osa songer à lui donner un ridicule. « Je serai banni pour toujours des états de Parme, se dit-il. Et que m'importe ?» S'il eût cherché à reconnaître la position de l'ennemi, le comte M eût appris que le pauvre jeune prince ne sortait jamais sans être suivi par trois ou quatre vieillards, ennuyeux gardiens de l'étiquette, et que le seul plaisir de son choix qu'on lui permit au monde était la minéralogie. De jour comme de nuit, le petit palais occupé par la Fausta, et où la bonne compagnie de Parme faisait foule, était environné d'observateurs. M savait heure par heure ce qu'elle faisait, et surtout ce qu'on faisait autour d'elle. L'on peut louer ceci dans les précautions de ce jaloux. Cette femme si capricieuse n'eut d'abord aucune idée de ce redoublement de surveillance. Les rapports de tous ses agents disaient au comte M qu'un homme fort jeune, portant une perruque de cheveux rouges, paraissait fort souvent sous les fenêtres de la Fausta, mais toujours avec un déguisement nouveau. « Évidemment, c'est le jeune prince, se dit M. Autrement, pourquoi se déguiser? Et parbleu, un homme comme moi n'est pas fait pour lui céder. » « Sans les usurpations de la République de Venise, je serai prince souverain, moi aussi. » Le jour de San Stefano, les rapports des espions prirent une couleur plus sombre. Il semblait indiquer que la Fausta commençait à répondre aux empressements de l'inconnu. « Je puis partir à l'instant avec cette femme ?» se dit M. « Mais quoi? À Bologne, j'ai fui devant Del Dongo. » Ici, je fuirai devant un prince? Mais que dirait ce jeune homme? Il pourrait penser qu'il a réussi à me faire peur. Et par Dieu, je suis d'aussi bonne maison que lui. M était furieux, mais, pour comble de misère, tenait avant tout à ne point se donner, aux yeux de la Fausta qu'il savait moqueuse, le ridicule d'être jaloux. Le jour de San Stefano, donc, après avoir passé une heure avec elle et en avoir été accueilli avec un empressement qui lui sembla le comble de la fausseté, il la laissa sur les 11 heures, s'habillant pour aller entendre la messe à l'église de Saint-Jean. Le comte M revint chez lui, prit l'habit noir râpé d'un jeune élève en théologie et courut à Saint-Jean. Il choisit sa place derrière un des tombeaux qui orne la troisième chapelle à droite. Il voyait tout ce qui se passait dans l'église par-dessous le bras d'un cardinal que l'on a représenté à genoux sur sa tombe. Cette statue ôtait la lumière au fond de la chapelle et le cachait suffisamment. Bientôt, il vit arriver la Fausta, plus belle que jamais. Elle était en grande toilette, et 20 adorateurs appartenant à la plus haute société lui faisaient cortège. Le sourire et la joie éclataient dans ses yeux et sur ses lèvres. « Il est évident, se dit le malheureux jaloux, qu'elle compte rencontrer ici l'homme qu'elle aime, et que depuis longtemps peut-être, grâce à moi, elle n'a pu voir. » Tout à coup, le bonheur le plus vif sembla redoubler dans les yeux de la Fausta. « Mon rival est présent, se dit M. » Et sa fureur de vanité n'eut plus de bornes. « Quelle figure est-ce que je fais ici, servant de pendant à un jeune prince qui se déguise ?» Mais quelques efforts qu'il put faire, jamais il ne parvint à découvrir ce rival que ses regards affamés cherchaient de toutes parts. À chaque instant, la Fausta, après avoir promené les yeux dans toutes les parties de l'église, finissait par arrêter des regards, chargés d'amour et de bonheur, sur le coin obscur où M s'était caché. Dans un cœur passionné, l'amour est sujet à exagérer les nuances les plus légères. Il en tire les conséquences les plus ridicules. Le pauvre M ne finit-il pas par se persuader que la Fausta l'avait vu ? Que malgré ses efforts, s'étant aperçue de sa mortelle jalousie, elle voulait la lui reprocher et en même temps l'en consoler par ses regards si tendres. Le tombeau du cardinal, derrière lequel M s'était placé en observation, était élevé de 4 ou 5 pieds sur le pavé de marbre de Saint-Jean. La messe à la mode finit vers les 1 heure, la plupart des fidèles s'en allèrent. Et la Fausta congédia les beaux de la ville, sous un prétexte de dévotion. Restée agenouillée sur sa chaise, ses yeux devenus plus tendres et plus brillants, étaient fixés sur M. Depuis qu'il n'y avait plus que peu de personnes dans l'église, ses regards ne se donnaient plus la peine de la parcourir tout entière, avant de s'arrêter avec bonheur sur la statue du cardinal. « Que de délicatesse !» se disait le comte M, se croyant regardé. Enfin, la Fausta se leva et sortit brusquement, après avoir fait avec les mains quelques mouvements singuliers. M, ivre d'amour et presque tout à fait désabusé de sa folle jalousie, quittait sa place pour voler au palais de sa maîtresse et la remercier 1000 et 1000 fois. Lorsqu'en passant devant le tombeau du cardinal, il aperçut un jeune homme tout en noir. Cet être funeste s'était tenu jusque-là agenouillé, tout contre l'épitaphe du tombeau, et de façon à ce que les regards de l'amant jaloux qui le cherchait pussent passer par-dessus sa tête et ne point le voir. Ce jeune homme se leva, marcha vite, et fut à l'instant même environné par 7 ou 8 personnages, à ses gauches, d'un aspect singulier, et qui semblait lui appartenir. M se précipita sur ses pas, mais, sans qu'il n'y eût rien de trop marqué, il fut arrêté dans le défilé que forme le tambour de bois de la porte d'entrée, par ses hommes gauches qui protégeaient son rival. Enfin, lorsque, après eux, il arriva à la rue, il ne put que voir fermer la portière d'une voiture de chétive apparence, laquelle, par un contraste bizarre, était attelé de 2 excellents chevaux, et en un moment fut hors de sa vue. Il rentra chez lui, haletant de fureur. Bientôt arrivèrent ses observateurs, qui lui rapportèrent froidement que ce jour-là, l'amant mystérieux, déguisé en prêtre, s'était agenouillé fort dévotement, tout contre un tombeau placé à l'entrée d'une chapelle obscure de l'église Saint-Jean. La Fausta était restée dans l'église jusqu'à ce qu'elle fût à peu près déserte. Et alors, elle avait échangé rapidement certains signes avec cet inconnu. Avec les mains, elle faisait comme des croix. M courut chez l'infidèle. Pour la première fois, elle ne put cacher son trouble. Elle raconta avec la naïveté menteuse d'une femme passionnée que, comme de coutume, elle était allée à Saint-Jean, mais qu'elle n'y avait pas aperçu cet homme qui la persécutait. À ces mots, M, hors de lui, la traita comme la dernière des créatures, lui dit tout ce qu'il avait vu lui-même, et la hardiesse des mensonges croissant avec la vivacité des accusations, il prit son poignard et se précipita sur elle. D'un grand sang-froid, la Fausta lui dit « Eh bien, tout ce dont vous vous plaignez est la pure vérité, mais j'ai essayé de vous la cacher afin de ne pas jeter votre audace dans des projets de vengeance insensés et qui peuvent nous perdre tous les deux. Car sachez-le une bonne fois, suivant mes conjectures, l'homme qui me persécute de ses soins est fait pour ne pas trouver d'obstacle à ses volontés, du moins en ce pays. » Après avoir rappelé fort adroitement qu'après tout, M n'avait aucun droit sur elle, la Fausta finit par dire que probablement elle n'irait plus à l'église de Saint-Jean. M était éperdument amoureux. Un peu de coquetterie avait pu se joindre à la prudence dans le cœur de cette jeune femme. Il se sentit désarmé. Il eut l'idée de quitter Parme. Le jeune prince, si puissant qu'il fût, ne pourrait le suivre, ou s'il le suivait, ne serait plus que son égal. Mais l'orgueil représenta de nouveau que ce départ aurait toujours l'air d'une fuite, et le comte M se défendit d'y songer. « Il ne se doute pas de la présence de mon petit Fabrice, » se dit la cantatrice ravie, « et maintenant nous pourrons nous moquer de lui d'une façon précieuse. » Fabrice ne devina point son bonheur, trouvant le lendemain les fenêtres de la cantatrice soigneusement fermées, et ne la voyant nulle part. La plaisanterie commença à lui sembler longue. Il avait des remords. « Dans quelle situation est-ce que je mets ce pauvre comte Mosca, lui, ministre de la police? On le croira mon complice. Je serais venu dans ce pays pour casser le cou à sa fortune. » Mais si j'abandonne un projet si longtemps suivi, que dira la duchesse quand je lui conterai mes essais d'amour? Un soir, que prêt à quitter la partie, il se faisait ainsi la morale, en rôdant sous les grands arbres qui séparent le palais de la Fausta de la citadelle, il remarqua qu'il était suivi par un espion de fort petite taille. Ce fut en vain que pour s'en débarrasser, il alla passer par plusieurs rues. Toujours cet être microscopique semblait attaché à ses pas. Impatienté, il courut dans une rue solitaire située le long de la Parma, et où ses gens étaient en embuscade. Sur un signe qu'il fit, ils sautèrent sur le pauvre petit espion, qui se précipita à leurs genoux. C'était la Bettina, femme de chambre de la Fausta. Après 3 jours d'ennui et de réclusion, déguisée en homme pour échapper au poignard du comte, M, dont sa maîtresse et elle avaient grand peur, elle avait entrepris de venir dire à Fabrice qu'on l'aimait à la passion et qu'on brûlait de le voir. Mais on ne pouvait plus paraître à l'église de Saint-Jean. « Il était temps, » se dit Fabrice. « Vive l'insistance !» La petite femme de chambre était fort jolie, ce qui enleva Fabrice à ses rêveries morales. Elle lui apprit que la promenade et toutes les rues où il avait passé ce soir-là étaient soigneusement gardées, sans qu'il y parût, par des espions de M. Ils avaient loué des chambres au rez-de-chaussée ou au premier étage, cachés derrière les persiennes et gardant un profond silence, ils observaient tout ce qui se passait dans la rue, en apparence la plus solitaire, et entendaient ce qu'on y disait. « Si ces espions eussent reconnu ma voix, » dit la petite Bettina, « j'étais poignardée sans rémission à ma rentrée au logis, et peut-être ma pauvre maîtresse avec moi. » Cette terreur la rendait charmante aux yeux de Fabrice. « Le comte M, » continua-t-elle, « est furieux, et madame sait qu'il est capable de tout. Elle m'a chargée de vous dire qu'elle voudrait être à 100 lieues d'ici avec vous. » Alors elle raconta la scène du jour de la Saint-Étienne et la fureur de M, qui n'avait perdu aucun des regards et des signes d'amour que la Fausta, ce jour-là folle de Fabrice, lui avait adressé. Le comte avait tiré son poignard, avait saisi la Fausta par les cheveux, et sans sa présence d'esprit, elle était perdue. Fabrice fit monter la jolie Bettina dans un petit appartement qu'il avait près de là. Il lui raconta qu'il était de Turin, fils d'un grand personnage qui pour le moment se trouvait à Parme, ce qui l'obligeait à garder beaucoup de ménagement. La Bettina lui répondit en riant qu'il était bien plus grand seigneur qu'il ne voulait le paraître. Notre héros eut besoin d'un peu de temps avant de comprendre que la charmante fille le prenait pour un non moindre personnage que le prince héréditaire lui-même. La Fausta commençait à avoir peur et à aimer Fabrice. Elle avait pris sur elle de ne pas dire ce nom à sa femme de chambre et de lui parler du prince. Fabrice finit par avouer à la jolie fille qu'elle avait deviné juste. « Mais si mon nom était bruité, ajouta-t-il, malgré la grande passion dont j'ai donné tant de preuves à ta maîtresse, je serais obligé de cesser de la voir. Et aussitôt les ministres de mon père, ces méchants drôles que je destituerai un jour, ne manqueront pas de lui envoyer l'ordre de vider le pays que jusqu'ici elle a embelli de sa présence. » Vers le matin, Fabrice combina avec la petite camériste plusieurs projets de rendez-vous pour arriver à la Fausta. Il fit appeler Ludovic et un autre de ses gens fort adroits qui s'entendirent avec la Bettina, pendant qu'il écrivait à la Fausta la lettre la plus extravagante. La situation comportait toutes les exagérations de la tragédie, et Fabrice ne s'en fit pas faute. Ce ne fut qu'à la pointe du jour qu'il se sépara de la petite camériste, fort contente des façons du jeune prince. Il avait été 100 fois répété que, maintenant que la Fausta était d'accord avec son amant, celui-ci ne repasserait plus sous les fenêtres du petit palais que lorsqu'on pourrait l'y recevoir. Et alors il y aurait signal. Mais Fabrice, amoureux de la Bettina, et se croyant près du dénouement avec la Fausta, ne put se tenir dans son village à 2 lieues de Parme. Le lendemain, vers les minuit, il vint à cheval, et bien accompagné, chanter sous les fenêtres de la Fausta un air alors à la mode, et dont il changeait les paroles. « N'est-ce pas ainsi qu'en agissent messieurs les amants ?» se disait-il. Depuis que la Fausta avait témoigné le désir d'un rendez-vous, toute cette chasse semblait bien longue à Fabrice. « Non, je n'aime point, » se disait-il en chantant assez mal sous les fenêtres du petit palais. « La Bettina me semble 100 fois préférable à la Fausta, et c'est par elle que je voudrais être reçue en ce moment. » Fabrice, s'ennuyant assez, retournait à son village. Lorsqu'à 500 pas du palais de la Fausta, 15 ou 20 hommes se jetèrent sur lui, 4 d'entre eux saisirent la bride de son cheval, 2 autres s'emparèrent de ses bras. Ludovic et les bras avides de Fabrice furent assaillis, mais purent se sauver. Ils tirèrent quelques coups de pistolet. Tout cela fut l'affaire d'un instant. 50 flambeaux allumés parurent dans la rue en un clin d'œil et comme par enchantement. Tous ces hommes étaient bien armés. Fabrice avait sauté à bas de son cheval, malgré les gens qui le retenaient. Il chercha à se faire jour. Il blessa même un des hommes qui lui serrait les bras avec des mains semblables à des étaux. Mais il fut bien étonné d'entendre cet homme lui dire, du ton le plus respectueux, « Votre Altesse me fera une bonne pension pour cette blessure, ce qui vaudra mieux pour moi que de tomber dans le crime de lèse-majesté en tirant l'épée contre mon prince. » « Voici justement le châtiment de ma sottise, » se dit Fabrice. « Je me serais damné pour un péché qui ne me semblait point aimable. » À peine la petite tentative de combat fut-elle terminée que plusieurs laquais, en grande livrée, parurent avec une chaise à porteurs dorés et peinte d'une façon bizarre. C'était une de ces chaises grotesques dont les masques se servent pendant le carnaval. 6 hommes, le poignard à la main, prièrent son Altesse d'y entrer, lui disant que l'air frais de la nuit pourrait nuire à sa voix. On affectait les formes les plus respectueuses. Le nom de prince était répété à chaque instant, et presque en criant. Le cortège commença à défiler. Fabrice compta dans la rue plus de 50 hommes portant des torches allumées. Il pouvait être 1 heure du matin, tout le monde s'était mis aux fenêtres. La chose se passait avec une certaine gravité. Je craignais des coups de poignard de la part du comte M, se dit Fabrice. Il se contente de se moquer de moi. Je ne lui croyais pas tant de goût. Mais pense-t-il réellement avoir affaire au prince? S'il sait que je ne suis que Fabrice, gare les coups de dague. Ces 50 hommes portant des torches et les 20 hommes armés, après s'être longtemps arrêtés sous les fenêtres de la Fausta, allèrent parader devant les plus beaux palais de la ville. Des majordomes, placés aux deux côtés de la chaise à porteurs, demandaient de temps à autre à son Altesse si elle avait quelque ordre à leur donner. Fabrice ne perdit point la tête. À l'aide de la clarté que répandaient les torches, il voyait que Ludovic et ses hommes suivaient le cortège autant que possible. Fabrice se disait « Ludovic n'a que 8 ou 10 hommes et n'ose attaquer ». De l'intérieur de sa chaise à porteurs, Fabrice voyait fort bien que les gens chargés de la mauvaise plaisanterie étaient armés jusqu'aux dents. Il affectait de rire avec les majordomes chargés de le soigner. Après plus de 2 heures de marche triomphale, il vit que l'on allait passer à l'extrémité de la rue où était situé le palais Sanseverina. Comme on tournait la rue qui y conduit, il ouvre avec rapidité la porte de la chaise pratiquée sur le devant, saute par-dessus l'un des bâtons, renverse d'un coup de poignard l'un des estafiers qui lui portait sa torche au visage. Il reçoit un coup de dague dans l'épaule, un second estafier lui brûle la barbe avec sa torche allumée. Et enfin, Fabrice arrive à Ludovic auquel il crie « Tue ! Tue tout ce qui porte des torches !» Ludovic donne des coups d'épée et le délivre de 2 hommes qui s'attachaient à le poursuivre. Fabrice arrive en courant jusqu'à la porte du palais Sanseverina. Par curiosité, le portier avait ouvert la petite porte, haute de 3 pieds pratiquée dans la grande, et regardait tout ébahi ce grand nombre de flambeaux. Fabrice entre d'un saut et ferme derrière lui cette porte en miniature. Il court au jardin et s'échappe par une porte qui donnait sur une rue solitaire. 1 heure après, il était hors de la ville. Au jour, il passait la frontière des États de Modène et se trouvait en sûreté. Le soir, il entra dans Bologne. « Voici une belle expédition, se dit-il. Je n'ai pas même pu parler à ma belle. » Il se hâta d'écrire des lettres d'excuse au comte et à la duchesse, lettres prudentes, et qui, en peignant ce qui se passait dans son cœur, ne pouvait rien apprendre à un ennemi. « J'étais amoureux de l'amour, disait-il à la duchesse. J'ai fait tout au monde pour le connaître, mais il paraît que la nature m'a refusé un cœur pour aimer et être mélancolique. Je ne puis m'élever plus haut que le vulgaire plaisir, etc. » On ne saurait donner l'idée du bruit que cette aventure fit dans Parme. Le mystère excitait la curiosité. Une infinité de gens avaient vu les flambeaux et la chaise à porteurs. Mais quel était cet homme enlevé et envers lequel on affectait toutes les formes du respect? Le lendemain, aucun personnage connu ne manqua dans la ville. Le petit peuple qui habitait la rue d'où le prisonnier s'était échappé disait bien avoir vu un cadavre, mais au grand jour, lorsque les habitants osèrent sortir de leur maison, ils ne trouvèrent d'autres traces du combat que beaucoup de sang répandu sur le pavé. Plus de 20 000 curieux vinrent visiter la rue dans la journée. Les villes d'Italie sont accoutumées à des spectacles singuliers, mais toujours elles savent le pourquoi et le comment. Ce qui choqua Parme dans cette occurrence, ce fut que même 1 mois après, quand on cessa de parler uniquement de la promenade aux flambeaux, personne, grâce à la prudence du comte Mosca, n'avait pu deviner le nom du rival qui avait voulu enlever la Fausta au comte M. Cet amant, jaloux et vindicatif, avait pris la fuite dès le commencement de la promenade. Par ordre du comte, la Fausta fut mise à la citadelle. La duchesse rit beaucoup d'une petite injustice que le comte dut se permettre pour arrêter tout à fait la curiosité du prince, qui autrement eût pu arriver jusqu'au nom de Fabrice. On voyait à Parme un savant homme arrivé du Nord pour écrire une histoire du Moyen-Âge. Il cherchait des manuscrits dans les bibliothèques, et le comte lui avait donné toutes les autorisations possibles. Mais ce savant, fort jeune encore, se montrait irascible. Il croyait, par exemple, que tout le monde à Parme cherchait à se moquer de lui. Il est vrai que les gamins des rues le suivaient quelquefois, à cause d'une immense chevelure rouge clair étalée avec orgueil. Ce savant croyait qu'à l'auberge on lui demandait des prix exagérés de toutes choses, et il ne payait pas la moindre bagatelle sans en chercher le prix dans le voyage d'une madame Stark, qui est arrivée à une 20e édition, parce qu'il indique à l'anglais prudent le prix d'un dindon, d'une pomme, d'un verre de lait, etc., etc. Le savant à la crinière rouge, le soir même du jour où Fabrice fit cette promenade forcée, devint furieux à son auberge et sortit de sa poche de petits pistolets pour se venger du cameriere qui lui demandait 2 sous d'une pêche médiocre. On l'arrêta, car porter de petits pistolets est un grand crime. Comme ce savant irascible était long et maigre, le comte eut l'idée, le lendemain matin, de le faire passer aux yeux du prince pour le téméraire, qui, ayant prétendu enlever la Fausta au comte M, avait été mystifié. Le port des pistolets de poche est puni de 3 ans de galère à Parme. Mais cette peine n'est jamais appliquée. Après 15 jours de prison, pendant lesquels le savant n'avait vu qu'un avocat qui lui avait fait une peur horrible des lois atroces, dirigées par la pusillanimité des gens au pouvoir, contre les porteurs d'armes cachées, un autre avocat visita la prison et lui raconta la promenade infligée par le comte M à un rival qui était resté inconnu. La police ne veut pas avouer au prince qu'elle n'a pu savoir quel est ce rival. Avouez que vous vouliez plaire à la Fausta, que 50 brigands vous ont enlevé comme vous chantiez sous sa fenêtre, que pendant 1 heure on vous a promené en chaise à porteurs sans vous adresser autre chose que des honnêtetés. Cet aveu n'a rien d'humiliant, on ne vous demande qu'un mot. Aussitôt après, qu'en le prononçant, vous aurez tiré la police d'embarras, elle vous embarque dans une chaise de poste et vous conduit à la frontière, où l'on vous souhaite le bonsoir. Le savant résista pendant 1 mois. 2 ou 3 fois, le prince fut sur le point de le faire amener au ministère de l'Intérieur et de se trouver présent à l'interrogatoire. Mais enfin, il n'y songeait plus quand l'historien, ennuyé, se détermina à tout avouer et fut conduit à la frontière. Le prince resta convaincu que le rival du comte M avait une forêt de cheveux rouges. 3 jours après la promenade, comme Fabrice qui se cachait à Bologne organisait avec le fidèle Ludovic les moyens de trouver le comte M, il apprit que lui aussi se cachait dans un village de la montagne sur la route de Florence. Le comte n'avait que 3 de ses boulets avec lui. Le lendemain, au moment où il rentrait de sa promenade, il fut enlevé par 8 hommes masqués qui se donnèrent à lui pour des sbires de Parme. On le conduisit, après lui avoir bandé les yeux, dans une auberge 2 lieues plus avant dans la montagne, où il trouva tous les égards possibles et un souper fort abondant. On lui servit les meilleurs vins d'Italie et d'Espagne. « Suis-je donc prisonnier d'État ?» dit le comte. « Pas le moins du monde, » lui répondit fort poliment Ludovic masqué. « Vous avez offensé un simple particulier en vous chargeant de le faire promener en chaise à porteur. Demain matin, il veut se battre en duel avec vous. Si vous le tuez, vous trouverez 2 bons chevaux, de l'argent et des relais préparés sur la route de Gênes. »« Quel est le nom du fier à bras ? » dit le comte irrité. Il se nomme Bombace. Vous aurez le choix des armes et de bons témoins, bien loyaux. Mais il faut que l'un des deux meure.
C'est donc un assassinat, dit le comte M, effrayé.
À Dieu ne plaise, c'est tout simplement un duel à mort avec le jeune homme que vous avez promené dans les rues de Parme au milieu de la nuit, et qui resterait déshonoré si vous restiez en vie. L'un de vous deux est de trop sur la terre. Ainsi, tâchez de le tuer. Vous aurez des épées, des pistolets, des sabres, toutes les armes qu'on a pu se procurer en quelques heures, car il a fallu se presser. La police de Bologne est fort diligente, comme vous pouvez le savoir, et il ne faut pas qu'elle empêche ce duel nécessaire à l'honneur du jeune homme dont vous vous êtes moqué.
Mais si ce jeune homme est un prince ?
C'est un simple particulier comme vous, et même beaucoup moins riche que vous. Mais il veut se battre à mort, et il vous forcera à vous battre, je vous en avertis.
Je ne crains rien au monde, s'écria M.
C'est ce que votre adversaire désire avec le plus de passion, répliqua Ludovic. Demain, de grand matin, préparez-vous à défendre votre vie. Elle sera attaquée par un homme qui a raison d'être fort en colère et qui ne vous ménagera pas. Je vous répète que vous aurez le choix des armes.
Et faites votre testament.
Vers les 6 heures du matin, le lendemain, on servit à déjeuner au comte M. Puis on ouvrit une porte de la chambre où il était gardé et on l'engagea à passer dans la cour d'une auberge de campagne. Cette cour était environnée de haies et de murs assez hauts et les portes en étaient soigneusement fermées. Dans un angle, sur une table de laquelle on invita le comte M à s'approcher, il trouva quelques bouteilles de vin et d'eau-de-vie, 2 pistolets, 2 épées, 2 sabres, du papier et de l'encre. Une 20aine de paysans étaient aux fenêtres de l'auberge qui donnait sur la cour. Le comte implora leur pitié.
« On veut m'assassiner !» s'écria-t-il. « Sauvez-moi la vie !»«
Vous vous trompez !»«
Ou vous voulez tromper !» lui cria Fabrice qui était à l'angle opposé de la cour, à côté d'une table chargée d'armes.
Il avait mis habit bas, et sa figure était cachée par un de ces masques en fil de fer qu'on trouve dans les salles d'armes.
« Je vous engage, » ajouta Fabrice, « à prendre le masque en fil de fer qui est près de vous. Ensuite, avancez vers moi avec une épée ou des pistolets. Comme on vous l'a dit hier soir, vous avez le choix des armes. »
Le comte M élevait des difficultés sans nombre et semblait fort contrarié de se battre. Fabrice, de son côté, redoutait l'arrivée de la police. Quoique l'on fût dans la montagne à 5 grandes lieues de Bologne. Il finit par adresser à son rival les injures les plus atroces. Enfin, il eut le bonheur de mettre en colère le comte M, qui saisit une épée et marcha sur Fabrice. Le combat s'engagea assez mollement. Après quelques minutes, il fut interrompu par un grand bruit. Notre héros avait bien senti qu'il se jetait dans une action qui, pendant toute sa vie, pourrait être pour lui un sujet de reproche ou du moins d'imputation calomnieuse. Il avait expédié Ludovic dans la campagne pour lui recruter des témoins. Ludovic donna de l'argent à des étrangers qui travaillaient dans un bois voisin. Ils accoururent en poussant des cris, pensant qu'il s'agissait de tuer un ennemi de l'homme qui payait. Arrivés à l'auberge, Ludovic les pria de regarder de tous leurs yeux et de voir si l'un de ces 2 jeunes gens qui se battaient agissait en traître et prenait sur l'autre des avantages illicites. Le combat, un instant interrompu par les cris de mort des paysans, tardait à recommencer. Fabrice insulta de nouveau la fatuité du comte.
« Monsieur le comte, lui criait-il, quand on est insolent, il faut être brave. « Je sens que la condition est dure pour vous. Vous aimez mieux payer des gens qui sont braves. »
Le comte, de nouveau piqué, se mit à lui crier qu'il avait longtemps fréquenté la salle d'armes du fameux Baptistin à Naples et qu'il allait châtier son insolence. La colère du comte M ayant enfin reparu, il se battit avec assez de fermeté,
ce qui n'empêcha point Fabrice de lui donner un fort beau coup d'épée dans la poitrine, qui le retint au lit plusieurs mois. Ludovic, en donnant les premiers soins au blessé, lui dit à l'oreille « Si vous dénoncez ce duel à la police, je vous ferai poignarder dans votre lit. » Fabrice se sauva dans Florence. Comme il s'était tenu caché à Bologne, ce fut à Florence seulement qu'il reçut toutes les lettres de reproche de la duchesse. Elle ne pouvait lui pardonner d'être venue à son concert et de ne pas avoir cherché à lui parler. Fabrice fut ravi des lettres du comte Mosca. Elle respirait une franche amitié et les sentiments les plus nobles. Il devina que le comte avait écrit à Bologne, de façon à écarter les soupçons qui pouvaient peser sur lui relativement au duel. La police fut d'une justice parfaite. Elle constata que deux étrangers, dont l'un seulement, le blessé, était connu, le comte M., s'étaient battus à l'épée devant plus de 30 paysans, au milieu desquels se trouvait, vers la fin du combat, le curé du village qui avait fait de vains efforts pour séparer les duellistes. Comme le nom de Joseph Bossi n'avait point été prononcé, moins de 2 mois après, Fabrice osa revenir à Bologne, plus convaincu que jamais que sa destinée le condamnait à ne jamais connaître la partie noble et intellectuelle de l'amour. C'est ce qu'il se donna le plaisir d'expliquer fort au long à la duchesse. Il était bien las de sa vie solitaire et désirait passionnément alors retrouver les charmantes soirées qu'il passait entre le comte et sa tante. Il n'avait pas revu depuis eux les douceurs de la bonne compagnie. Je me suis tant ennuyé à propos de l'amour que je voulais me donner et de la fausta, écrivait-il à la duchesse, que maintenant son caprice me fût-il encore favorable, je ne ferai pas 20 lieues pour aller la sommer de sa parole. Ainsi ne crains pas, comme tu me le dis, que j'aille jusqu'à Paris où je vois qu'elle débute avec un succès fou. Je ferai toutes les lieues possibles pour passer une soirée avec toi et avec ce comte si bon pour ses amis.